Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième podcast à Geneviève dans le cours d'intervention, exclusion et violence. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Annie, qui est intervenante, on va dire, au post-crise de l'organisme PECH. Fait qu'Annie, avant de commencer, tu peux-tu nous résumer un petit peu qu'est-ce que tu fais, toi, comme intervenante au post-crise? Ouais.
En fait, c'est ça, je suis intervenante sociale au volet d'intervention crise et post-crise. Donc, j'ai l'opportunité de répondre aux appels des policiers. Les policiers ont le pouvoir discrétionnaire quand ils font une intervention de type psychosocial, de faire appel à des intervenants pour venir évaluer s'il y a une dangerosité pour la personne principalement. Est-ce qu'il y a un risque suicidaire ou homicidaire? Et si c'est le cas, au niveau de la dangerosité, PECH est un des organismes qui est mandaté pour appliquer la loi P38. Donc, si la loi P38 s'applique, l'intervention est assez simple en soi. Si elle ne s'applique pas, on reste quand même là, puis on tente de mieux évaluer quels sont les besoins de la personne pour faire de l'orientation, offrir du support en intervention de crise. Et si ça convient, on peut offrir un post-crise sur quelques semaines, quelques jours, dépendamment des besoins de la personne pour mieux orienter puis s'assurer en fait que la crise ne se répète pas ad vitam aeternam puis qu'elle puisse sortir un peu du cycle de l'empêtrement dans lequel elle s'est retrouvée.
Donc, la personne a déjà eu une intervention, c'est sûr, avec PECH, que ce soit avec toi ou avec d'autres intervenants de crise. Et là, c'est l'intervenant qui décide, par exemple, de te référer en post-crise une personne en se disant, je pense qu'un suivi, ça pourrait lui être bénéfique.
Exactement.
Un suivi à plus court terme, un peu.
Tous les matins, nous, deux jours la semaine, on prend les appels des policiers. Souvent, quand je rencontre une personne moi-même, je vais préférer faire le post-crise moi-même parce que ça fait une belle continuité puis c'est une opportunité de continuité dans un système de santé où il y en a plutôt peu. Fait que ça, c'est un cadeau que je me fais et que j'offre à personne par la même occasion. Puis, nos collègues qui travaillent de soir, fin de semaine, nous, quand on arrive le matin, on prend tous les dossiers, on lit ça, puis là, on est quatre au bureau, puis on se dispatche. En bon français, les dossiers pour savoir qui fait quoi selon la charge de travail qu'on a. On rappelle les gens rapidement pour donner des services.
Ce qui est étonnant quand même, puis tu sais, ce que je peux partager aux étudiants, c'est que là, je sais pas moi, 15-16 ans, il y avait une personne au post-crise. Ensuite, il y en a eu deux.
J'étais la deuxième.
T'étais la deuxième. Puis après ça, t'es devenue la première. Puis là, vous êtes rendu quatre.
On est rendu quatre.
Les besoins sont vraiment là. Puis tu me disais tantôt même que vous cherchez encore du monde là, pour des postes à combler. Donc, PECH est en expansion. Puis on voit que les besoins dans la ville sont présents encore.
Les besoins sont présents. Puis on prend en considération aussi que juste pour le volet de service auquel j'appartiens, crise post-crise, la demande d'intervention psychosociale des policiers est en augmentation aussi. Fait que c'est sûr que ceux qui étaient policiers il y a 20 ans, ils arrêtaient des voleurs puis ils couraient avec un gun dans les mains. Mais là, ils font beaucoup de psychosocial puis leur formation s'est transformée, leur type d'intervention s'est transformé. Fait que la collaboration avec nous prend de plus en plus de place aussi.
Ça fait longtemps qu'ils collaborent, donc comme un vieux couple là, qui a appris à bien se comprendre. Et si on parlait de la situation que je t'ai présentée, qui est la situation d'André, où André, lui, avait quand même une vie stable au départ, il travaillait dans la construction, il avait sa propre compagnie, et là, est arrivé un accident, et ce qu'on voit dans la vignette, c'est qu'il y avait une dégringolade dans la situation où là, la douleur prend le dessus, la consommation arrive, perd sa femme, sa maison, se retrouve en logement, et là, on arrive à la situation présentement où André a des loyers de retard, parce qu'il consomme l'argent de son chèque d'aide sociale. Et là, nous, on arrive en intervention à ce niveau-là. Fait que peut-être que dans un premier temps, tu pourrais nous dire qu'est-ce qui a soulevé ton regard, mais ton attention, là, quel élément de la situation?
En fait, c'est intéressant de voir que André, considérant qu'il a eu son entreprise, qu'il avait sa maison, qu'il avait un paquet de trucs, il a beaucoup de force, puis il a beaucoup d'acquis. Fait que ça, quand on travaille en intervention, on a moins d'éducation à faire. Ça peut être aidant de juste rebrancher la personne sur ses compétences. Les forces, des compétences qu'il a un petit peu perdu de vue pour tout ce qui est expliqué dans la vignette. Fait que de partir de ça, je trouve que ça nous donne un plus grand éventail de possibilités pour la personne que si elle a toujours eu une vie misérable et difficile et tout ça.
Puis Annie, je te coupe parce que je vais attirer l'attention des étudiants sur la première chose que tu viens de dire, qui est l'aspect des forces, quelque chose de positif. Alors que souvent,
mm-hmm.
puis je suis sûre qu'ils l'ont fait, les étudiants, puis c'est pas parce que je vous aime pas, là, mais qui ont vu au départ les pertes.
Ouais.
Puis toi, ton regard, il s'est posé davantage sur hey, c'était un entrepreneur. Fait qu'il faut pas que j'oublie qu'il y a déjà ces forces-là.
Mm-hmm.
C'est juste que des fois, on les oublie parce qu'on là, on va pas bien, mais que les forces sont déjà là. Puis moi, ma job, ça va être un peu des réactivés. Réactivés,
tout à fait. Fait que c'est sûr, en intervention, si je rencontre ce monsieur-là, dans la priorité, puis ça, c'est peut-être à cause de mon mandat, ben je vais m'assurer qu'il n'y a pas d'idée suicidaire. Je vais m'assurer que au niveau de son équilibre mental, on n'est pas dans des pertes au point où je pourrais avoir envie de mettre fin à mes jours ou est-ce que j'ai déjà fait des tentatives, parce que on sait aussi que moi, je trouve ça excessivement difficile d'aider des personnes qui ont des douleurs chroniques. C'est un gros sentiment d'impuissance qu'on a parce que, tu sais, cette personne-là prend déjà des médicaments, elle s'endort avec l'alcool pour sa douleur, tu sais, tout. Tu sais, puis ça, son médecin n'a pas beaucoup de poigne là-dessus, on n'en aura pas plus. Fait que ça, je trouve ça, c'est pas évident. Fait que quand la personne est très souffrante, souvent, bien, ça arrive que le suicide, ça devient une solution pour cesser de souffrir, pas juste moralement, mais aussi physiquement. Fait que je me pencherais là-dessus pour commencer. Puis une fois que ça s'est écarté, ben là, déjà, on peut essayer de voir qu'est-ce que André veut. T'sais, c'est toujours aussi la priorité parce que moi, je peux prendre la vignette puis sortir 5-6 affaires qui me semblent importantes pour moi, mais qui ne le sont pas nécessairement pour lui. Fait que ça va être de voir, lui, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce que sont ses priorités. T'sais, moi, je regarde ça vite de même. Si je me mets dans mes bottines à moi, ben arrête de boire puis ça va aller mieux. Est-ce que lui veut arrêter de boire? S'il veut pas boire, veut boire moins ou il veut même pas avoir de contrôle sur sa consommation, ça pourra pas être ma priorité en intervention. Donc, il va falloir qu'on ait des priorités communes, puis ça sera pas les miennes, c'est les siennes qui sont importantes.
Fait que toi, tu as déjà ton idée en tête, puis c'est sûr que tu vas le questionner par rapport à qu'est-ce qu'il veut ou par rapport à sa consommation, mais c'est pas toi qui va décider. Parce qu'on n'est pas les experts, c'est lui l'expert de son vécu, puis c'est lui, c'est sa vie à lui. Fait que dans cette approche-là, qui est très égalitaire aussi de pas se positionner en expert.
Parce que je le suis pas du tout, parce qu'André, même s'il m'a confié sa vie là, comme ça, en quelques minutes sur un coin de table, ben je le connais pas plus, puis il me dit bien qu'est-ce que je vais entendre. Puis les personnes peuvent avoir tendance aussi à faire ça parce qu'ils ont un sentiment de honte, parce que, puis tu sais, puis sans être rempli de préjugés, c'est souvent les messieurs de 50 ans, ben c'est pas comme une jeune fille de 25 hein, qui se répand sur ses émotions. Fait que ça peut être plus difficile à aller chercher, d'où l'importance d'aller valider les idées suicidaires, puis tout ça, puis d'aller gratter tout le temps un petit peu plus. Fait que c'est sûr qu'une fois qu'on a établi les priorités avec André, ben là, on peut faire une espèce d'offre de service. Fait que moi, la façon que je travaille souvent, puis ce que je propose aux personnes, c'est de déterminer quelles sont les priorités, puis ensuite de faire un buffet. Parce que des solutions, il y en a un char d'une barge, mais des solutions qui lui correspondent, je sais pas c'est lesquelles. Fait que, tu sais, moi, ma job, c'est d'amener un maximum d'opportunités puis de propositions dans lesquelles il pourra piocher. Fait que ça fait que moi, ma job, c'est d'être au courant de qu'est-ce qui peut être offert à quelqu'un qui est dans cette situation-là. Fait que vite de même, c'est sûr que s'il a envie de diminuer sa consommation d'alcool, c'est son souhait, ben là, tu sais, l'abstinence puis contrôler sa consommation, c'est deux choses. Donc, c'est deux références complètement différentes. Fait que, tu sais, est-ce que on va essayer de regarder, tu sais, comme ici à Pêche, on a la chance d'avoir un consultant toxico qui s'appelle Jean Siborne. Je pourrais fixer une rencontre avec André puis Jean, puis on va travailler plutôt sur contrôler la consommation puis explorer où est-ce que j'en suis par rapport à la consommation. S'il dit « je suis plus capable de boire, je m'endure plus », ben, on a l'opportunité, oui puis non, mais tu sais, il est sur l'aide sociale. Donc, il y a accès à des maisons de thérapie gratuitement, ce qui n'est pas offert à tout le monde. Si c'est pas sur l'aide sociale, c'est 2, 3, 4 000, 5 000 par mois au minimum.
Ouais.
Fait que là, il est sur l'aide sociale, il pourrait avoir accès à ça. Fait que déjà, ne serait-ce que pour la bulle conso, on peut avoir des orientations différentes en fonction de ce qu'il souhaiterait, lui.
Puis peut-être que c'est moins aussi épeurant quand on parle de... Bien, diminuer sa consommation pour minimiser les impacts. T'sais, là, on est dans une approche davantage de réduction des méfaits. Ça peut faire moins peur que de dire, bien là, il faut que tu arrêtes complètement. T'sais, arrêter complètement, les gens, des fois, ils peuvent pas s'imaginer leur vie sans ça. Donc, ils se voient déjà en échec. Ouais. J'aime beaucoup l'idée du buffet que tu amènes parce que c'est vrai que un de nos travails d'intervenant, c'est d'augmenter le nombre de possibilités puis d'options. Les gens, ils ont des œillères, puis ils en voient juste une ou deux qui ne fait pas tant leur affaire. Tandis que nous, parce qu'on est en dehors de la situation, bien là, on peut voir plus large.
On a un éventail plus grand.
Oui.
L'autre chose aussi, c'est sûr que quand je vois que quelqu'un, ça fait 3 mois qu'il n'a pas payé son loyer, ben moi, j'ai des inquiétudes pour son intégrité physique parce que se ramasser dans la rue, c'est un autre chantier. Là.
Mm-hmm.
Fait que c'est de voir à partir de ce moment-là, comment on évite la rue. S'il veut éviter la rue, ben on joue qu'André veut éviter la rue.
Ouais.
Comment qu'on évite la rue? Ben on peut l'accompagner à prendre une entente de paiement avec son propriétaire. C'est des fois, ça se peut, avant que le propriétaire passe à régie. C'est des trucs qui peuvent être envisageables. Pour l'aider à faire sa gestion financière puis payer ses trucs, ben, on peut faire appel à une fiducie. C'est sûr que ça, c'est un peu de croire aux licornes qu'en 2 minutes et quart, on va pouvoir mettre quelqu'un sa fiducie. Mais si on est déjà sur une liste d'attente, ben, ça démontre une volonté d'arriver à ses fins financièrement, ce qui peut rassurer un propriétaire si on a un accompagnement, tu sais. Ouais. Fait que c'est de tricoter autour de la situation, des fois, pour rassurer aussi les propriétaires où, là, ça se pose pas, mais pour, des fois, rassurer des proches ou n'importe qui. Quand la
personne
se mobilise un peu, ben, elle peut avoir déjà des gains.
Mm-hmm.
De pas être seule. Fait que d'éviter la rue aussi, puis c'est de voir est-ce que la vie en chambre, ça lui convient? Hein, d'être isolé tout seul dans une chambre, puis de prendre un coup, puis d'avoir mal au dos, puis de pas avoir de pas socialiser, tout ça. Ça se peut que de dire, regarde, on va la laisser tomber, la chambre. Maintenant, ça serait peut-être plus confortable pour toi d'aller dans une maison d'hébergement. De venir faire un mois à Maison Saint-Luc, d'aller au camp de base, d'aller à Fraternité Saint-Alphonse, Némite, là. Tout ça, c'est des endroits où tu peux être en contrôle de ta consommation. Puis tu peux peut-être prendre un petit coup le soir, puis manger une gomme avant de rentrer, tu sais.
T'es moins isolé.
Oui. Il y a quelqu'un qui fait à manger. Fait que, tu sais, souvent, c'est des personnes qui ont perdu les rythmes de base. Fait que, tu sais, ils dorment pas bien, ils mangent pas bien, ils bougent pas parce qu'il y a mal. Fait que c'est de voir un petit pas après l'autre jusqu'où ils pourront avoir une plus grande zone de confort puis prendre du pouvoir. Fait que, dépendamment de ce qu'ils souhaiteraient, ben là, on pourrait l'orienter vers un milieu de vie peut-être plus sain que celui de la solitude et de la bouteille.
Oui, tout à fait.
Ça peut être une alternative. Puis je verrais aussi un peu avec lui, là, quels acquis qu'il a, qu'il veut vraiment pas perdre. Parce que quand les gens, il y en a qui se maintiennent en logement à tout prix, puis c'est ça que je veux pas perdre, ou c'est mon autonomie que je veux pas perdre, ou tu sais, c'est quoi qui est le plus important pour lui, puis on va travailler autour de ça. T'sais, puis parfois, ça, on peut aussi accompagner la personne à recréer des liens avec les proches. Tu sais, de les inciter à... Ben, tu sais, ton père, tu n'as pas donné de nouvelles, puis t'es honteux, puis tout ça. Mais tu sais, quand tu peux ouvrir sur le fait que ça va faire du bien, et à lui et à toi, ça peut être une alternative aussi de recréer un réseau.
Mm-hmm.
Ou, c'est un monsieur-là, tu sais, juste d'aller aux Alcooliques Anonymes. Tu sais, ça peut être quelque chose où il y a quelque chose de plus social. Une
fraternité
là,
qui est là.
Un partage. Ouais, ouais. Parce que la honte, la solitude, la douleur, c'est toutes des affaires qui t'isolent, de tout, qui t'enferment dans une boîte. Fait que c'est comment. Penser en dehors de la boîte pour l'aider à sortir de sa boîte à lui.
Oui. Puis en même temps, tu parlais des acquis du début, bien on sait qu'il a déjà été capable de gérer de l'argent parce qu'il y avait une compagnie. On sait qu'il y a quand même des compétences là. Là, avec l'alcool et tout ça, là, ça a pris un peu le bord.
Mm-hmm.
Mais c'était quand même là. Fait qu'il a cette capacité-là. Fait qu'on pourrait aussi utiliser cet élément-là.
C'est quelque chose que je dis souvent. Comme en intervention. T'sais, ce que vous avez déjà été n'est pas disparu.
Mm-hmm.
Ce n'est pas parce que tu n'es pas connecté à que ce n'est pas existant. Fait que c'est trouver les moyens de se remettre en action. T'sais, que ce soit André, toi, moi, n'importe quel humain sur la Terre, on va tous avoir un passage à vide dans lequel on n'a plus de repères.
Mm-hmm.
On l'a tout vécu.
Oui.
Fait que si on commence déjà à se regarder le nombril pour voir comment que je fais moi pour traverser mon passage à vide, qu'est-ce que c'est qu'un passage à vide où tu te sens déconnecté? Qu'est-ce qui nous a fait du bien? Qu'est-ce qui nous a sorti aussi de cette situation-là? C'est des trucs qu'on peut remettre en application puis offrir un peu aux autres parce que notre parcours a son importance.
Oui.
Mais c'est ça. Puis c'est des petites choses. C'est que souvent, je pense qu'on a l'impression en intervention que c'est grandiose qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un. Tu sais, qu'on va changer sa vie là, d'un coup de baguette magique.
Mm-hmm.
Mais c'est pas tant que nous qui faisons quelque chose. Tu sais, comme je disais, on ouvre des portes, puis s'ils les empruntent, puis ça y convient, tant mieux. Mais tu sais, c'est de dire, as-tu mangé ce matin? Parce que, tu sais, si tu déjeunes pas, tu dînes pas, puis tu commences à boire à 2 heures, ça se peut pas. Tu sais, c'est physiquement pas possible. Mm. L'humain n'est pas fait pour ça. Fait que, tu sais, juste de dire, OK, mais regarde, la prochaine fois, je vais venir te voir à 8h30 le matin, puis on va aller chez Tim Hortons, on va prendre un café, on va manger 2 toasts, puis après ça, on va voir si, pour ta contrainte temporaire avec ton médecin, je t'accompagne-tu dans cette démarche-là. Tu sais, mais c'est un pas à la fois, puis si la personne se sent submergée par des démarches qui sont trop grandes, c'est sûr qu'elle n'embarquera pas.
Oui, parce que là, il y a toute la peur, puis il y a déjà l'anticipation de...
La crainte de l'échec. Ouais, de se sentir encore moins bon, parce que c'est sûr que notre beau André, 50 ans, n'est pas fier de lui, là.
Mais non.
Hein? Fait que pour lui redonner un peu de fierté, puis de la fierté, ça peut être, hein, je suis allée prendre une marche, j'ai pas commencé à boire à 8 heures, j'ai commencé à boire à 2 heures.
On est vraiment dans les petites choses qui, comme aussi retarder le temps qu'il va se retrouver à la rue parce qu'il y a ce potentiel-là, retarder le temps qu'il va commencer à consommer. Puis tantôt, tu parlais du réseau. Là, on n'en parle pas dans la vignette. On dit que sa conjointe a quitté, mais il y a peut-être des frères, des sœurs qui étaient là, qui n'étaient pas là, des enfants. Fait que ça serait un aspect qui serait intéressant à explorer, ouais, pour voir s'il n'y a pas des liens qui pourraient être créés, parce que ça...
Puis une autre petite affaire que je pense, là, quand on considère que c'est un monsieur qui boit beaucoup et depuis longtemps, jamais ou grand jamais, on dit à quelqu'un dans cette situation-là, arrête de boire.
Mm.
Pas rien que parce que ça se peut pas, mais c'est parce que si c'est un monsieur qui a des symptômes de sevrage, tu peux le tuer.
Oui, oui.
Hein?
Ça, les élèves, s'ils l'ont pas appris encore, dans leur cours de dépendance, ils vont le voir que le sevrage à l'alcool, c'est plus dangereux, c'est ça.
Fait que ça, c'est pour prendre en considération que c'est au-delà de la volonté de la personne, ça essaie de consommer de l'alcool, c'est vraiment une maladie, puis c'est une maladie qu'il faut soigner, traiter, puis prendre en considération comme telle. C'est pas de la volonté. C'est pas ça. Fait que ça change aussi la façon dont tu dois intervenir avec ces personnes-là, parce que si tu les trouves juste lâches, puis pas à la hauteur, puis moi, franchement, pour se botter le derrière, ben, change de job. On travaille pas avec cette clientèle-là, ça le fera pas, là.
Fait que notre intervention, il y a une sphère médicale qu'il faut explorer, que ce soit au niveau de la consommation de la douleur, puis il y a une sphère économique, puis il y a une sphère plus psychologique au niveau de tantôt, tu parlais des idées suicidaires, mais on pourrait, tu sais, penser qu'à la limite, il y a peut-être pas d'idées suicidaires, mais il y a des symptômes dépressifs. Fait que, tu sais, on n'a pas le choix de travailler un peu sur tous ces aspects-là.
Puis d'aller chercher la collaboration du médecin de famille.
Oui.
Tu sais, ça, on fait ça souvent aussi régulièrement. On accompagne la personne chez son médecin. Puis s'il dit, ben non, je suis capable d'y aller tout seul, ben, c'est beau, André, je veux pas me mêler de tes affaires, mais es-tu d'accord que j'y envoie mes notes? Tu sais, qu'ils sachent un peu qu'est-ce qu'on a abordé ensemble. Parce que, tu sais, des fois, les gens, mettons, André, on ne sait pas, mais mettons, il a mal dans le dos, puis il fait de la haute pression. Fait que lui, il va voir son doc, puis il dit, ben j'ai mal dans le dos, je fais de la haute pression. Il dit pas qu'il prenne 24 par jour, puis il dit pas qu'il y a des symptômes de
dépression. Il oublie des petits bouts.
Parce qu'il se dit, ben, le médecin, il est là pour les affaires médicales. Puis il ne pense pas que la santé psychologique, la santé mentale, c'est médical. Souvent, ils ont tendance à faire ça, les gens. Fait que, tu sais, quand on réussit à avoir les autorisations de concertation, ben, on permet d'ouvrir encore plus de portes. Puis le médecin, ben, ça va devenir notre allié. Il peut faire, lui, une référence au CRDQ. Il peut faire une référence pour une travailleuse sociale à plus long terme. Tu sais, il peut ouvrir d'autres portes. Fait que c'est un jeu d'ouverture de porte, en fait, la job, là. Puis plus que les portes sont ouvertes, plus la personne va pouvoir s'en sortir. Fait que c'est un peu ça. On détient des clients, comme des concierges.
Puis créer des alliances avec le médecin, avec les autres gens qui pourraient être autour, justement, pour aider la personne qu'on accompagne.
Ouais.
Ben merci, Annie, c'était vraiment intéressant. Ben,
merci à toi, c'était le fun.
J'espère que ça a bien fait réfléchir mes étudiants. Fait que la gang, on se revoit dans un autre podcast.
Bye.
Ciao.